quelques annonces avant de vous adresser la parole dans ce sermon. D'abord, n'oubliez pas que cette semaine, il y a les 3-4 temps, un moment des changements de saison. Donc, les 4 temps, mercredi, vendredi et samedi, d'après les règles de Pilouze que nous suivons, ce sont 3 jours avec jeûne et abstinence. Donc, jeûne 1 repas par jour pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans. On peut tolérer un petit truc le matin, un petit truc le soir, ou manger le soir une petite chose, une petite collation à midi. Pareil pour donc mercredi, vendredi et samedi. Donc abstinence, pas de viande, ces 3 jours-là. Attention, donc je ne serai pas là lundi et mardi, donc pas de messe ici, ce lundi et mardi. Aussi, donc j'annonce pour tous ceux qui écoutent sur Internet, donc la grâce du bon Dieu, on a trouvé un très beau gîte pour pouvoir prêcher les retraites, donc je reprendrai de façon plus régulière la prédication des exercices avec un groupe de 6 retraites donc pour l'année 2019 en commençant au mois de février. Donc j'ai déjà envoyé les renseignements avec les feuilles de retraite à tous ceux qui sont sur ma liste d'adresse, sinon les gens peuvent me téléphoner directement pour s'adresser à moi s'ils veulent venir à ces retraites. Donc il y aura 6 retraites, donc première à partir du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Je voudrais revenir sur ces 2 magnifiques fêtes que nous avions vendredi et samedi. Vendredi, c'était l'exaltation de la Sainte Croix. Et samedi, la fête de Notre-Dame des 7 douleurs. Évidemment, il y a un lien évident entre ces 2 fêtes. C'est pour ça que je voudrais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Toute la foi catholique est centrée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a pas de croix, s'il n'y a pas de rédemption, on ne pourrait pas aller au ciel, c'est impossible, puisque le ciel a été fermé par le péché d'Adam et Ève. Et donc, il faut méditer, se mettre au pied de la croix et méditer la croix pour comprendre la gravité du péché. Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de croix. S'il n'y avait pas eu de péché, on n'aurait pas besoin du mystère de la rédemption. Et donc, Saint Thomas va jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu de péché, le péché d'Adam et Ève et tous les péchés qui ont suivi ce péché d'Adam et Ève, eh bien, il n'y aurait pas eu le mystère de l'incarnation. Donc, pas d'incarnation, pas de rédemption, sans péché. C'est pour ça que, au cours de la nuit de Noël, on parle de « au felix culpa », aux bienheureuses fautes. Incroyable le terme. Aux bienheureuses fautes qui nous a valu un tel rédempteur. C'est pas de foi. Parce que Saint François, les franciscains, eux pensent que de toute façon, notre Seigneur Jésus-Christ se serait incarné parce que c'est la plus belle œuvre du bon Dieu. Donc de ce côté-là, on est libre de prendre, de choisir ce que l'on veut. Mais il faut méditer sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque on rentre dans une chapelle, surtout avec un enfant qui n'a pas été éduqué dans la foi catholique, ils sont hypnotisés par le crucifix. Ils voient un beau crucifix comme celui qui est au-dessus de l'autel là, et puis ils demandent: pourquoi le monsieur il est accroché à la croix? Alors je prends la croix, j'enlève son socle et je l'amène à l'enfant. Et puis je fais passer les doigts sur les clous. Regarde, regardez, il est crucifié. Puis regardez, son cœur est percé. Puis il y a des blessures sur tout le corps. Et puis il a un clou sur la main droite, un clou à la main gauche, un clou pour les 2 pieds, il a une couronne d'épines. Alors l'enfant demande: c'est qui? Pourquoi il est comme ça? C'est un méchant? Non, c'est un bon. Un très bon même, puisqu'il est Dieu. Et j'explique, cet homme qui est crucifié, pour vous et pour moi sur la croix, c'est le Fils de Dieu. Et c'est à cause de nos péchés qu'il est crucifié sur la croix. Et donc il faut essayer de consoler le bon Dieu qui est mort pour nous dans son humanité, pour justement rattraper les péchés. Il souffre pour que nous puissions... Il souffre pour nous parce que je refuse de souffrir. Moi qui suis coupable, je refuse de payer pour mes péchés. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui est innocent, va payer pour mes péchés. Il prend sur lui les propres conséquences de mes péchés, bien qu'il n'ait pas péché lui-même. Et en général, l'enfant, spontanément, s'il a encore un peu de bon sens, il va embrasser les pieds du crucifix pour consoler le bon Dieu. Et il faut faire la même chose avec les enfants dans les familles catholiques. Et c'est la raison de l'importance, cette fête magnifique de l'exaltation de la Sainte Croix. J'ai déjà dit plusieurs fois, je crois que la Sainte Croix avait été perdue pendant très longtemps. C'est la mère de l'empereur Constantin qui l'a retrouvée, Sainte Hélène. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Sainte Hélène, c'était en 335. J'ai oublié la date. Je vais vérifier ma date pour ne pas vous dire. C'est ça, 335. En 335, donc elle est allée à Jérusalem pour retrouver la croix. Les traditions parlaient d'une certaine, certain lieu où seraient les croix. Donc elle a fait creuser, ils ont trouvé trois croix en fait. Ils ont trouvé la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et la croix des deux bandits, le bon larron, un saint Dismas et le mauvais larron Gestas. Et ils n'avaient aucun moyen d'arriver à savoir quelle était la vraie croix, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évêque de Jérusalem qui est allé chercher une vieille femme qui était complètement paralysée, dont les quatre hommes sont venus porter la femme et l'ont posée successivement sur les trois croix. Et sur l'une d'entre elles, elle a été immédiatement guérie. Donc on savait que c'était la vraie croix. Si vous allez à Rome, à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome, il y a la plus grosse relique de la croix. Un bout de croix qui fait presque, un bout de croix qui fait presque 80 cm de haut, qui est encore conservé à la basilique Sainte-Croix de Rome, pardon, pas Sainte-Croix de Jérusalem. C'est l'église Sainte-Croix de Jérusalem, mais à Rome. Et il faut comprendre ces choses-là. Le meilleur moyen pour comprendre l'importance de la croix, de l'exaltation de la Sainte-Croix, c'est d'utiliser le texte de Saint Paul aux Philippiens, que l'église justement a choisi comme épître de la fête de l'exaltation. Et Saint Paul explique que notre Seigneur Jésus-Christ s'est humilié, il s'est fait à cause de son humiliation obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et donc on voit très bien que l'accès à la croix se fait par la vertu d'humilité. Et la vertu d'humilité entraîne l'obéissance. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, dit Saint Paul, et est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et si notre Seigneur Jésus-Christ s'est humilié alors qu'il n'est pas coupable, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est nous humilier parce que nous sommes coupables. Et cette humiliation, l'humilité de la croix, nous amènera à l'obéissance, donc au retour dans la voie droite. Et c'est pour cela que les hommes modernes ne peuvent pas plus supporter les croix. La première chose que fait la Révolution, donc elle arrive dans un pays, c'est de supprimer les croix. Pas pour rien. La première chose qu'a fait l'Église de Vatican II en 1969, c'était de supprimer la messe. Pourquoi? Parce que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. Donc on supprime la croix pour supprimer la nécessité de l'obéissance. Parce que qui dit croix dit péché. Qui dit croix dit rédemption. Qui dit croix dit notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui se met sur cette croix, qui est crucifié sur cette croix pour réparer nos péchés. Donc on supprime la croix pour ne plus avoir du tout de pensée du péché. Le péché n'existe pas parce que l'homme devient Dieu. C'est tout le monde moderne, c'est l'Église de Vatican II. Et ce texte continue en disant que Dieu a donné au Christ un nom au-dessus de tout nom, pour qu'à ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout genou au ciel, sur la terre et les enfers fléchissent, pour que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ et dans la gloire de Dieu le Père, la Sainte Trinité. Et on voit très bien par ce texte magnifique de Saint Paul, qui est un plus beau texte de Saint Paul, l'union entre l'incarnation, la rédemption, tout centré sur la croix. Et plus tard, c'est intéressant ce plan historique, c'était en 615, je crois. 615, la ville de Jérusalem a été conquise par le roi de Perse, qui s'appelait Chosroès, qui est un païen. Et la première chose qu'a fait Chosroès, un païen, était de voler la relique de la croix qui était à Jérusalem. Et même un païen avait un tel respect pour cette croix qu'ils ne l'ont pas détruite et qu'ils l'ont vénérée, qu'ils l'ont gardée en Perse. Mais plus tard, 14 ans plus tard, c'était en 629, l'empereur Héraclius a pris sa revanche et a battu Chosroès. Et la première chose qu'il a demandé dans le traité de paix qui a été fait après la bagarre, après la bataille, c'est la récupération de la croix. Donc il a récupéré à ce moment-là la croix en 629. Et c'est très intéressant parce que ça montre encore bien les choses. Donc, il était revêtu de ses plus beaux habits royaux. Donc, il porte la croix de notre Seigneur Jésus qui a voulu la remettre lui-même à son lieu où elle était gardée sur le mont de Jérusalem, le mont Golgotha, Jérusalem. Donc, il la place sur ses épaules, il monte le chemin qui part de Jérusalem, qui quitte la ville de Jérusalem pour monter au Golgotha. Et là, une force invisible l'a arrêté. Il n'a pas pu porter la croix plus longtemps. Et c'est l'évêque Zacharie qui lui a dit, avec les vêtements que vous avez, sire, vous ne pouvez pas imiter l'humilité et la pauvreté de votre Créateur. Alors il a compris, il a enlevé ses habits royaux, il a mis sur ses épaules une cape de plébéien, du peuple, et il a pu porter la croix et l'amener au sommet du calvaire. Et on retrouve exactement la même chose, l'humilité nécessaire. Pas d'humilité. On ne peut pas approcher de la croix. Pas d'humilité, on ne peut pas porter sa croix. Et porter sa croix est nécessaire parce que celui qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit évidemment commencer par se renier lui-même, vertu d'humilité, et se renoncer à lui-même, et puis porter la croix et suivre notre Seigneur. Donc on voit très bien la clé en quelque sorte qui ouvre tout le mystère de la rédemption, c'est l'humilité. C'est l'orgueil qui a perdu l'homme moderne, l'orgueil d'Adam et Ève, l'orgueil de Lucifer qui dit je ne servirai pas. L'orgueil du monde moderne, l'orgueil de l'Église de Vatican II, l'orgueil du monde moderne en général, je ne servirai pas parce que je veux me faire Dieu. Si je reconnais Dieu comme mon créateur, évidemment, je tomberai à genoux au pied de la croix, commencer par le servir. Et il y a une deuxième chose qui est très intéressante, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, une fois qu'on a compris l'importance de la croix, exaltation de la Sainte Croix, 14 septembre, le lendemain, la Sainte Église a choisi comme fête Notre-Dame des Sept Douleurs. Faut bien montrer le lien entre les deux. Parce qu'évidemment, quand on parle de la croix, on parle de quelque chose qui est pénible, quelque chose qui est rebutant, naturellement parlant, je vous l'explique souvent. Et donc, juste après, il y a Notre-Dame. Notre-Dame qui arrive, Notre-Dame qui intervient. Parce qu'elle est co-rédemptrice. Étant co-rédemptrice, il est normal que sa fête ait lieu juste après la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et quand on amène, la même histoire que j'expliquais aux enfants, quand on amène un enfant, même parfois un enfant catholique, devant une Vierge des Douleurs, vous avez une belle Vierge des Douleurs ici, Notre-Dame de l'Annonciation, mais c'est une Vierge douloureuse en fait. On montre à l'enfant la Vierge, et l'enfant demande tout de suite, pourquoi la dame elle est triste? Donc on explique le lien entre la Vierge et la croix. On explique qu'elle est triste parce qu'elle voit son fils sur la croix. Alors il dit, mais on peut consoler la Sainte Vierge? Ben oui, on peut consoler la Sainte Vierge. Ils embrassent les pieds de la Sainte Vierge. Les enfants spontanément font ces choses-là, sauf quand ils sont complètement contaminés par le monde moderne, à tel point qu'ils ne peuvent même plus faire des choses comme ça. La Vierge Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est ça. La Vierge Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est la participation discrète mais réelle de la très sainte Vierge Marie à la Passion de son divin Fils. Elle est celle qui amène le fidèle à notre Seigneur. C'est son rôle. Elle est Notre-Dame des Sept Douleurs. Vous connaissez tous cette belle histoire du miracle du Moyen Âge. Dans bien des cas, dans les Vierges douloureuses, souvent c'est des Vierges justement qui représentent Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc on voit sur leur cœur le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, on voit les sept glaives. Il y a cette histoire magnifique du Moyen Âge où un jeune homme avait l'habitude, tous les matins, avant d'aller au travail, il s'arrêtait pour faire une prière devant la statue de Notre-Dame des Sept Douleurs de son village. Et un jour, une nuit, malheureusement, elle a commis une faute grave contre, on ne sait pas quelle faute, une faute grave contre le bon Dieu. Et elle a perdu l'état de grâce. Alors il n'a pas osé le lendemain matin aller faire ses dévotions devant Notre-Dame de cette douleur. Il a attendu le soir, en revenant du travail, il a quand même voulu y aller. Il est allé s'agenouiller en pleurs devant la statue de Notre-Dame de cette douleur, et à ce moment, il a vu avec stupéfaction qu'il n'y avait plus cette glaive et huit. Il a compris, ça c'est moi. Il s'est levé bouleversé, il est allé se confesser immédiatement auprès de la paroisse, demandant pardon pour sa faute de la nuit passée, la nuit précédente. Il est revenu, le huitième glaive avait disparu. Et cela explique bien, oui, toutes ces choses sont tellement importantes pour comprendre comment ce lien entre la dévotion à la Sainte Vierge Marie, la dévotion à l'incarnation, la dévotion au mystère de la rédemption, la dévotion à la croix, la dévotion à la messe. C'est tout est résumé dans la messe. La messe, c'est ça. La messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire qui va nous donner justement ce que l'Église a de plus précieux. Qu'est-ce que l'Église a de plus précieux? La Sainte Eucharistie. Notre Seigneur Jésus-Christ, présent réellement, physiquement, substantiellement sous les aspects du pain et du vin, gardé sous les aspects d'une petite hostie qui semble être du pain dans le tabernacle, dans le ciboire consacré, mais qui est vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut toujours justement avoir ce regard vers Notre-Dame. Et lorsqu'on est un peu découragé, parce que pour une raison ou pour une autre, parce qu'on est un peu en dépression, parce qu'on est malade, parce qu'on a une dispute, parce qu'on a eu quelque chose qui ne va pas dans la vie professionnelle, je ne sais quoi, n'importe quelle chose de ce genre qui nous arrive à tous tout le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se mettre au pied de Notre-Dame. C'est la première étape. Aller se mettre au pied de Notre-Dame et Notre-Dame nous guide. Elle est celle qui amène à la croix de notre Seigneur. C'est pour ça que dans la plupart des calvaires du Moyen-Âge, on trouvait toujours au pied de la croix la Sainte Vierge, parce qu'elle est rédemptrice du monde, du genre humain. Elle est celle à qui notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Femme, voici votre fils. » Son fils est Saint Jean. Il va être adopté en quelque sorte par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Saint Jean présente l'Église. Donc la Sainte Vierge Marie est mère de l'Église, elle est mère de l'Église, mère co-rédemptrice, mais mère douloureuse. Parce qu'elle a enfanté, on dit qu'elle a enfanté notre Seigneur Jésus-Christ selon la nature, d'une certaine façon, étant vraiment mère de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 9 mois, la portant dans son sein, avec évidemment une apparition dans son sein de façon totalement miraculeuse. Mais elle a porté notre Seigneur Jésus-Christ, elle a mis au monde notre Seigneur Jésus-Christ dans la joie. Elle va mettre au monde l'Église catholique dans la douleur. Pour cela qu'elle est appelée Notre-Dame des Sept Douleurs. Parce qu'elle est médiatrice du genre humain, co-rédemptrice du genre humain. Elle apparaît au pied de la croix. Là, c'est une chose qui nous sépare totalement de l'Église moderne, du Vatican II, mais aussi surtout des protestants. Les protestants ont tellement de mal à comprendre ces choses-là. Parce qu'ils voudraient aller directement au Christ. Non, le Christ a voulu passer par sa mère. Le bon Dieu aurait pu venir sur la terre sans passer par la Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur aurait pu s'incarner, prendre, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, prendre une chair humaine sans passer par la Sainte Vierge. Il peut tout, il est Dieu. Il a voulu passer par elle pour bien nous faire comprendre que c'est par elle que les grâces passent. Donc, pas Notre-Dame de cette douleur, pas de croix, pas de messe. Tout est lié. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. C'est une petite note dans l'épître d'aujourd'hui, du 17e dimanche après la Pentecôte, aux Éphésiens. Il est dit par saint Paul qu'il faut que nous vivions de telle façon que nous soyons dignes de la vocation à laquelle nous sommes appelés. Voilà une très belle phrase de saint Paul. Quelle est cette vocation à laquelle nous sommes appelés? C'est pas, contrairement à ce que certaines personnes croient ici dans ce texte-là, c'est pas la vocation religieuse, la vocation sacerdotale auquel fait allusion saint Paul. C'est la vocation générale pour tous les chrétiens, justement à cause de l'acceptation de la Sainte Croix, à cause de Notre-Dame des Sept Douleurs, chacun d'entre nous, à cause du fait que notre Seigneur Jésus-Christ a offert ce sacrifice extraordinaire pour nous, avec la coopération de sa mère, donc notre Seigneur Jésus-Christ nous demande la vocation à la sainteté. La volonté de mon Père, c'est votre sainteté. Et notre Seigneur. Et on est tous appelés à cette sainteté. Tout s'appelle cette sainteté générale. Parfois, on entend des imbéciles qui ne connaissent rien et qui nous disent « La sainteté, c'est pour le curé. » Mais attendez, et les autres? Et les laïcs, ils ne sont pas tenus à la sainteté aussi? Ils descendent au ciel. Si on dit que la sainteté, c'est pour les religieux et les curés, ça veut dire qu'il y a que les curés et les religieux au ciel. Ça peut être très amusant. Au ciel, tout le monde doit y aller. Tout le monde est appelé au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort simplement pour les religieux, il est mort pour tout le monde. Donc tous, nous sommes appelés à la sainteté. Maintenant, les moyens d'acquérir cette sainteté sont différents, bien sûr, selon les personnes. Moi, je dois obtenir ma sainteté personnelle en tant que prêtre par ma vie sacerdotale. Bon, par exemple, la récitation du bréviaire tous les jours, ça, vous ne l'avez pas, bien sûr. Mais vous êtes tenu à cette sainteté. Si le prêtre est tenu par l'équivalent des 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, les laïcs sont tenus par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Pourquoi? Parce que justement, les laïcs aussi sont tenus eux aussi, à passer par la Très Sainte Vierge Marie pour se mettre au pied de la croix, méditer sur notre Seigneur Jésus-Christ exsangue sur la croix et comprendre que puisque notre Seigneur Jésus-Christ meurt aussi pour chacun d'entre nous, y compris pour les laïcs, eh bien les laïcs aussi doivent atteindre cette sainteté, avoir ce désir de sainteté. Donc il faut demander au bon Dieu tous les jours dans sa prière, « Mon Dieu, la Très Sainte Vierge Marie, Très Sainte Vierge Marie, aidez-moi à atteindre la sainteté que le bon Dieu veut que j'atteigne. » Encore une fois, chaque degré de sainteté est différent pour chaque personne. Il faut se mettre au pied de la croix et dire au mon Dieu, que votre volonté soit faite. Alors, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, par l'intermédiaire de la croix, bien sûr, et puisque la Sainte Vierge, la Très Sainte Vierge Marie est au pied de l'autel, comme elle est au pied de la croix, puisque notre Seigneur Jésus-Christ va venir sur la croix, de la croix, je veux dire, sur l'autel par la consécration, mais demandons à notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Sainte Messe, par la participation de sa très sainte mère, puisqu'elle est médiatrice de toutes ces grâces, demandons cette grâce de compréhension. Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Et c'est ce qu'a dit Saint Paul au moment de sa conversion. Il a été converti, il y a coup de bâton, Saint Paul, il n'y a pas d'autre mot. Il était un ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne cherchait qu'une seule chose, c'est emprisonner tous les chrétiens qui lui tombaient sous la main. Il est sur la route de Damas, à cheval, dans tout son orgueil. Il voit une lumière éblouissante qui aveugle le cheval, qui aveugle lui aussi. Il tombe par terre, complètement aveugle, physiquement devenu aveugle. Il cherche à Satan ce qui se passe. Et puis, il entend cette voix du ciel, Saul, Saul, c'était son nom à l'époque. Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et notre Seigneur Jésus-Christ appelle Saint Paul. Et Saint Paul dit, mais qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que vous persécutez. Et c'était l'illumination pour Saint Paul. Il est devenu pratiquement un saint en quelques jours. Donc il a reçu le baptême, a retrouvé la vue, est devenu l'apôtre Saint Paul, toujours associé à la tête de l'Église avec Saint Pierre. En demandant tous ces grands saints qui sont au ciel, demandons-leur qu'ils nous fassent une petite place là-haut. Demandons-leur qu'ils nous préparent justement à monter là-haut. Et demandons bien sûr toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie pour qu'un jour on puisse justement monter là-haut. Notre Seigneur Jésus-Christ nous attend avec toute la gloire de sa résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.